Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir, et je pèse mes mots, de recevoir Alexia Laroche-Joubert. Vous connaissez sans aucun doute Alexia, c'est une productrice, la plus grande productrice télévisuelle française. Elle est patronne de ALP, et donc qui est la boîte de production de Koh-Lanta, la boîte de production de Fort Boyard et de tellement d'autres formats. Elle est depuis la semaine dernière également présidente de la société Miss France. Bref, Alexia est quelqu'un d'important dans les médias. Pendant cette interview, nous allons parler de son parcours qui est absolument passionnant, mais également de son regard très original sur l'égalité femmes-hommes, son regard sur le bien-être au travail, bien entendu, et sur beaucoup d'autres choses. J'ai passé un extrêmement bon moment à faire cet entretien et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Bonjour Alexia.
Bonjour Gaëlle.
Alors, Alexia, je dois dire que je suis comme un gamin à l'idée de vous interviewer parce qu'on a eu l'occasion de se croiser dans nos vies professionnelles, mais je dois vous avouer que je vous voue une admiration secrète. Et donc, je suis très heureux de vous interviewer. Et comme d'habitude, je vais présenter mon invité, même si faut-il vous présenter. Mais quand même, je vais le faire. Donc, ma chère Alexia, à l'issue d'études de droit à l'université Panthéon-Sorbonne, vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit à la propriété intellectuelle. De 88 à 96, vous avez travaillé à Canal Jimmy, puis après, vous avez travaillé auprès de Marc-Olivier Fogiel pour Télé Dimanche et TV+. Alors, il est probable que, vu tout ce que vous avez fait, que je rate deux ou trois étapes, donc, par pitié, pardonnez-moi. En 98-99, vous êtes rédactrice en chef à l'unité magazine de documentaires de TF1. En 2000-2001, vous êtes rédactrice en chef du magazine exclusif sur TF1. 2001-2002, vous produisez l'émission Love Story. Et de 2001 à 2009, l'émission Star Academy. Et je dois dire, ce n'est pas sur votre profil Wikipédia, mais vous avez été également, la patronne de la Star Academy. Vous avez été madame la directrice. Donc vous avez été également à l'antenne, et vous avez fait plein de choses, mais aujourd'hui, en 2016, vous avez été nommée présidente d'Aventure Line Productions, et donc Aventure Line Productions, juste pour rappel, c'est une entreprise de production, une des plus grosses entreprises de production française, qui produit, entre autres, l'émission la plus connue, Fort Boyard, mais beaucoup d'autres choses, bien entendu, et vous devenez, depuis la semaine dernière, présidente de la société Miss France. Alexia, vous êtes, je crois, ce que l'on peut dire, l'une des femmes les plus influentes de la production télévisuelle française. Mais malgré tout, ma première question ne va pas porter sur le milieu. J'aimerais savoir, avec tout ce que vous avez fait, quel regard vous portez sur votre parcours. Quand vous faites un petit retour en arrière, vous dites, ok, comment je regarde tout ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est finalement, vous prenez étape après étape? Comment vous regardez tout ça, Alexia?
Alors déjà, merci pour cette déclaration d'amour professionnel. sur ALP, il y a aussi Koh-Lanta quand même. Hein,
bien sûr, oh là là, mais quelle honte.
Très joli et très belle, ce joli format, cette très belle émission.
En tant qu'ancien de TF1, oubliez Koh-Lanta, je vais me fouetter avec des orties fraîches, Alexia. Je suis désolée.
Quel regard je porte, je me dis, qu'est-ce que ça a été long ce chemin.
C'est vrai.
Ah ouais, je me dis, oh là 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 là, parce que souvent on me dit, vous avez bien réussi, mais je dis, mais vous savez quoi, je les ai toutes montées les marches, il n'y en a pas une que j'ai loupée, puis ouais. Alors pas à pas, et ça m'a pris beaucoup de temps.
Et d'énergie.
Alors, ouais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, probablement pas mal de sacrifices, et après, on va pas se mentir, énormément de plaisir, d'envie, de kiff.
Oui, alors j'ai oublié quand même que vous avez été une des dirigeantes d'Endemol aussi. J'ai complètement zappé cette période-là, mais vous avez été une des patronnes d'Endemol. Enfin, vous avez un vrai gros parcours de dirigeante, quoi. Et donc effectivement, ça a été long. Et vous trouvez que ça a été lent?
Ça a été très long, très lent. D'une certaine façon, heureusement, parce que quand on prend la direction d'une société comme celle que je dirige actuellement, ah ouais. si on n'a pas un tant soit peu d'expérience, on n'arrive pas à assumer le job.
Alors, j'ai une question un peu tarte à la crème, Alexia. Pardonnez-moi par avance. Est-ce que le fait d'être une femme a été un atout ou un inconvénient dans un milieu que je connais plutôt très bien, j'ai passé quelques années dans les médias, donc un milieu plutôt réputé machiste, est-ce que ça a été un atout ou est-ce que vous l'avez vécu comme un inconvénient qu'il fallait dépasser, quelque chose de complexe parfois?
Alors, c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai considéré ça comme un élément neutre. Oh. C'est-à-dire, je ne me suis jamais posé la question du fait que j'étais une fille ou un garçon. Jamais. Et j'ai jamais vu dans le regard des gens avec lesquels j'ai collaboré. Alors, peut-être que j'ai travaillé avec beaucoup de patrons qui étaient très féministes. Hein. Mais je ne me suis jamais posé la question. Donc, et je ne me suis jamais même autorisée à me la poser parce que moi, c'est pas dans ma mentalité, c'est pas dans mon éducation. Ma mère est grand reporter de guerre. Elle a été l'une des premières femmes sur des terrains de guerre dans un milieu d'hommes. Et elle ne s'est pas posé la question, elle ne s'est pas dit j'ai un interdit de par mon appartenance à ce genre. Et bien, je me dis exactement la même chose, donc je ne me suis pas posé cette question. Donc ça a été neutre.
Mais c'est fou parce que vous croyez, croyez-moi si vous le voulez, Alexia, mais je crois que vous êtes la première femme qui me fait ce genre de réflexion, parce que vous êtes la maman de deux filles, je crois, et vous ne pensez pas que le monde professionnel qui les attend a changé par rapport à vos débuts?
Oui, très clairement, hein, je vois bien le travail qui a été fait par des associations, je vois bien toutes ces femmes qui malheureusement et sûrement fait l'objet de difficultés de carrière, pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves qui peuvent être des agressions sexuelles, ou des choses très désagréables à vivre quand on est une femme. Il s'avère que moi, quand on me pose cette question, parce que c'est une question qui m'est personnelle, je ne ferai pas de généralité, je n'ai jamais subi quoi que ce soit, ni du machisme, ni de choses beaucoup plus graves. Donc, je ne peux pas... mais vous savez, je dis aussi que peut-être que le fait d'avoir été éduquée par une femme dans un milieu d'hommes, le fait d'avoir des parents qui venaient de ce milieu professionnel.
Oui, et c'est vrai que vous le rappeliez, c'est vrai que votre maman avait un métier qui était quand même, à l'époque en tout cas, pas un métier de fille comme on aurait pu le définir. Enfin, c'était quand même un métier de courage, enfin, très masculin d'une certaine manière, dans l'iconographie en tout cas de la société à l'époque.
Oui, et puis pas que dans l'iconographie, dans la réalité, sur le terrain, il y avait très peu de femmes.
Alors, Alexia, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un point commun. Un vrai énorme point commun. Vous comme moi, nous avons eu le Covid très tôt, si mes informations sont bonnes, en mars 2020.
Oui, le début mars,
Ouais, moi c'est mon épouse qui me l'a gentiment donné en février 2020, donc je l'ai eu un petit peu avant vous. Est-ce que la pandémie et le fait d'avoir eu le Covid, ça a changé votre regard sur votre façon de travailler, sur ou pas particulièrement? Qu'est-ce que ça a changé, toutes ces choses-là? Le fait que vous ayez été, vous, contaminé? Le fait que vous mesuriez à quel point c'est une réalité, pas un fantasme comme certaines personnes pourraient le dire. Est-ce que ça a changé quelque chose ou finalement pas tant que ça?
Alors beaucoup de choses, mais je pense que c'est quelque chose qui... moi ça a changé beaucoup de choses. Déjà j'ai rencontré mes enfants, ce que j'ai trouvé dingue. C'est-à-dire que
génial.
Je n'avais jamais dîné avec mes enfants en semaine.
Wow.
Je rentrais toujours vers 21h, donc je dînais pas avec mes enfants. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée à dîner avec mes enfants, et comme je dis, je les ai rencontrés, ils sont hautement sympathiques.
J'adore.
Donc j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, et ça a été merveilleux. Après, il y avait autre chose, c'est que moi, j'étais dans un tourbillon de ce qu'on appelle, on pourrait dire, du social clubbing, et je le dis avec un petit ton péjoratif, et que là, d'un seul coup, le monde s'est arrêté, et que je n'avais plus de sollicitations parce qu'il n'y avait pas d'activité. Et je trouve que ça m'a libérée. Donc d'une certaine façon, il fallait ça pour que je comprenne que la vie était ailleurs. Et je pense que ça m'a remis les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une femme d'affaires, une mère, une amie, et éventuellement une femme. Donc c'est pas pour rien que j'ai quasiment divorcé 3 fois. Donc, je pense que là, ça a remis tout dans le bon ordre.
Mais alors, Alexia,
ça a remis dans le bon sens la priorité.
Permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Happy Work qui ne vous connaissent pas forcément, vous êtes productrice de télé et il faut rappeler que les productions se sont littéralement arrêtées du jour au lendemain. Donc, en fait, vous avez été en chômage technique du jour au lendemain, c'est ça?
Alors, il s'avère que la seule qui a produit...
C'est vous?
C'est moi, parce que j'étais le seul CEO au monde à tourner Koh-Lanta.
Ah ben oui. Eh oui.
Mais ça, c'est mon côté. Voilà, on est un peu kamikaze. Mais donc nous, on a beaucoup travaillé pendant cette période. Mais néanmoins, on était quand même bloqués chez nous. Donc voilà. Et je pense que ce que ça a changé, c'est que je m'autorise quelque chose. Moi, j'ai le syndrome, comme beaucoup de femmes pour le coup, et ça, j'ai parlé des femmes en général, on a le syndrome de la bonne élève. Mmh. Donc on n'ose jamais ne pas aller au travail, on n'ose jamais plein de choses. Et j'avais ce syndrome-là. Je me rappelle un jour, comme ça je vous raconte, je sors du casting de la Star Academy et j'arrive en gare de Lyon, qui était à l'époque on faisait le casting en province, et j'arrive de gare de Lyon à 16h. Et là, je me suis dit, je vais aller au Bon Marché. Bon Marché, c'est une sorte de Samaritaine ou un truc comme ça. Et j'avais l'impression que mon patron allait m'appeler en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais au rayon fruits et légumes du Bon Marché ?» Donc là, maintenant, je m'autorise à faire du télétravail et à aussi rester chez moi pour télétravailler parce que je trouve que ça peut aussi être agréable. Et oui, moi je le dis, ça m'arrive en plus de pouvoir comme ça réceptionner ma machine Darty chez moi et j'ai pas honte de le dire.
Ben alors justement, Alexia, alors vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais peu ou prou, on fait partie à peu près de la même génération. Est-ce qu'en thème d'organisation du travail, il y a un monde d'avant et un monde d'après la pandémie dans votre secteur d'activité et pour vous? J'ai l'impression que pour vous, ça a été une révolution, cette pandémie, en fait, dans votre relation au travail.
Oui, alors pour moi, personnellement, après la réalité, c'est que il faut quand même rattraper le retard de l'année 2020.
Hein. Bien sûr.
Et une partie de l'année 2021, parce que évidemment il y a eu un impact par un effet domino. Donc il y a beaucoup de travail là. Donc on travaille énormément. C'est juste que mon rapport au travail est en effet différent et probablement que ça m'a permis de prendre plus de recul. Voilà. Mais en termes de quantité de travail, ça change pas beaucoup. Mais je sais que les salariés qui travaillent au bureau, nous on a accordé la possibilité à tous les salariés de faire 2 jours de télétravail par semaine, parce que quand même on s'est aperçu que quand on faisait que du télétravail, le lien social et la communication s'en ressentaient un petit peu. Et puis il y a des métiers créatifs qui sont plus compliqués quand vous êtes seul chez vous. Souvent, les métiers créatifs sont faits d'échanges. Mais pour certains salariés, c'est sûr que ça change aussi le travail, parce que ça permet à certains d'éviter les 2 heures de trajet qui sont quand même relativement improductifs.
Ce qui n'était pas le cas avant la pandémie, c'est ça ?
Non, ce n'était pas le cas.
Donc c'est une vraie nouveauté.
Ouais.
Alors, Alexa, contrairement à ce que je disais, et je me suis un peu planté en introduction, donc forcément, vous dirigez l'une des plus grandes sociétés de production d'émissions de télévision française, et bien entendu, Koh-Lanta, Fort Boyard, La Carte au Trésor, Popstar, Minicum, La Classe, enfin, la liste, je pourrais passer 10 minutes à lister le nom d'émissions que vous produisez. Et vous êtes, j'imagine, très, très, très souvent sous pression. Est-ce que vous avez le temps de penser à votre propre bien-être au travail ou finalement c'est quelque chose où vous dites, bah, je verrai après?
Alors, c'est plus globalement la notion de bien-être. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans le bien-être. Je suis assez ce qu'on appelle dur au mal. Et donc là, par exemple, je me fais jamais masser. Enfin, je suis pas une fille qui suit dans la détente. Mmh. On pourrait dire que si on devait me caractériser, je suis relativement contrôle freak. Mais c'est pas quelque chose que je subis. C'est-à-dire que je pense que c'est pas dans ma nature. J'ai pas de jugement sur celles qui le font. Je comprends très bien. Et visiblement, elles en éprouvent beaucoup de plaisir. Mais moi, me faire papouiller, ça m'énerve. Donc
Mais bien-être, c'est pas forcément se faire papouiller, c'est bien-être, ça peut être aussi faire une pause et regarder une série, faire une pause et passer du temps avec ses enfants.
Ça, je sais pas faire. Non, ça, je sais pas faire.
Ah ouais, donc vous êtes vraiment workaholic, en fait.
Ouais, ça, je sais pas faire. Non, je sais pas faire. Déjà parce que je regarde énormément d'émissions de télévision, donc regarder des séries, eh ben c'est, je vois pas à quel moment je pourrais le faire. Non, encore que, je vous dis ça, mais par exemple, il y a You sur Netflix, qui est l'une des seules séries avec ZFR que je suis, et j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison. Donc, je suis mauvaise langue, mais je suis pas capable de binger, par exemple. J'adorerais, hein. Je l'ai fait une fois dans ma vie, de faire 5 épisodes d'affilée, j'ai trouvé ça très sympa.
Avec quelle série ?
C'était avec une série, c'était genre Fucking Life, c'était une série d'ados, vachement bien. Je ne me rappelle plus, mais c'était il y a 4-5 ans.
Et vous n'avez pas bingé des Friends, des How I Met Your Mother, ce genre de trucs, même
jamais.
Pas
jamais. Jamais.
Alors, Alexia, j'ai une vraie grosse question. Parce que, donc, vous, on peut vous cataloguer, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, en workaholic. Vous travaillez énormément, et le travail est quelque chose de vital pour vous. Mais comment est-ce qu'on gère, parce que vous êtes quand même la patronne d'une énorme boîte de production audiovisuelle, comment est-ce qu'on gère le bien-être des salariés dans un métier où tout est urgence, délai à respecter, pression des chaînes? Est-ce que vous avez un regard spécifique sur le sujet? Est-ce que vous dupliquez ce que vous faites pour vous sur vos salariés?
Alors, non, alors j'espère être quand même plus attentive pour eux que je ne le suis pour moi, parce que quand même je suis relativement lucide sur le fait que j'ai peut-être un pet au casque là-dessus. mais inversement, je pense que globalement, les gens qui sont chez ALP sont un peu du même bois. C'est-à-dire que, pour parler en termes de Koh-Lanta, on est tous un peu du mal. On ne s'écoute pas beaucoup et on travaille tous beaucoup. Après, il s'avère qu'on essaie de faire des trucs assez sympathiques. Moi, on aime bien passer du temps ensemble. Alors, on n'est pas sur les pots de 18 heures, à faire des pots de 18 heures, mais par exemple, on a fait un truc assez marrant pour les 30 ans de Fort Boyard. Toute l'équipe est allée faire les jeux de Fort Boyard. On a emmené tout le monde.
Génial.
Là, il y a une semaine, j'ai invité tout le bureau. Alors, tout le monde ne pouvait pas venir, mais pour la première de James Bond. Donc, on est allé au ciné, tous ne pouvaient pas venir, mais beaucoup sont venus pour voir James Bond. On essaie de faire des petites choses comme ça. Alors, c'est probablement qu'on... sincèrement, c'est des petites touches, mais on fait le maximum dans les missions qui nous sont données, parce qu'on est... En fin de compte, on est une très grosse boîte en termes de volume de production, mais on est des petits effectifs.
Mais il y a un côté familial dans tout ça.
On est une trentaine de personnes... On est, ce qui est intéressant et dont je suis très fière, on est plutôt une boîte dont les personnes qui sont à l'intérieur sont plus âgées que la plupart des boîtes de production. Mmh. Et parce que je pense qu'il faut beaucoup d'expérience, comme je vous le disais en introduction, pour produire les programmes qui nous sont confiés. Et que on ne pourrait pas le faire si on était des jeunes perdreaux de l'année, quoi.
Ouais. Et en fait, moi, j'aimerais vous raconter une anecdote. Vous avez travaillé avec Patrick Lelay. Moi aussi, j'ai eu cette grande chance. Et Patrick Lelay m'avait dit un jour au détour d'un couloir, Gaël, vous êtes manager, vous avez le droit de faire la gueule une fois par an, mais s'il vous plaît, le jour où ça arrive, faites-le chez vous. Et je trouve que dans notre métier, il y a un peu de ça, parce que j'entends beaucoup d'enthousiasme dans votre voix, Alexia, même si vous êtes une workaholic, enfin, vous êtes une passionnée et ça se voit quand on a la chance de croiser votre chemin, ça sent que vous n'allez pas à la mine tous les jours, quoi.
Ah non, et puis alors moi je dis l'intérêt d'être patron, parce que c'est quand même beaucoup d'emmerde, hein. le seul intérêt d'être patron, c'est de dire bonjour à des gens qu'on respecte le matin. Ouais. Et moi j'ai cette chance-là, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans cette société. Mais il n'y a pas une personne dont je ne reconnais pas l'incroyable expertise, qualification et entrain. Mmh. Et franchement, je ne pourrais pas gérer la boîte sans eux. Je pense que je n'en aurais pas le courage.
Ouais. Alors, Alexia, je vais vous embêter, je vais vous titiller sur un sujet dont on a déjà parlé, mais malgré tout, j'aimerais revenir sur vous en tant que dirigeante. Vous avez un parcours qui fait de vous sans aucun doute. Alors, je donne dans la flagornerie, pardon Alexia, oui, j'assume, je vous admire, basta, c'est tout. Et donc, vous êtes l'une des femmes les plus influentes dans le milieu de l'audiovisuel français. Cela m'amène deux questions. La première, avez-vous conscience de cela? Et la seconde, au-delà de votre rôle en tant que dirigeante, est-ce que vous essayez de faire bouger les lignes sur les questions d'égalité femmes-hommes ou, comme vous le disiez au début de l'interview, fondamentalement comme vous n'avez pas considéré avoir été considérée comme femme en tant que telle et donc discriminée, est-ce que finalement vous ne vous sentez pas particulièrement militante? Et je vous pose cette question, parce que la semaine dernière, j'interviewais Mercedes Serra, qui elle a un côté warrior sur le sujet. Donc...
Ah oui, elle est très, mais même elle est même warrior dans sa vie personnelle.
Ouais.
Elle est très très impliquée là-dessus. Attends, je vais répondre déjà à Gaëlle à votre première question. Est-ce que j'en ai conscience d'être une femme influente? Je pense que c'est pas dans mon prisme, parce que comme je vous dis, vraiment le fait d'avoir été la fille de ma mère, d'avoir d'admirer profondément ma mère, Je trouve que elle bouge les lignes. Elle raconte l'histoire du monde, elle raconte la détresse humaine, elle raconte le totalitarisme, elle raconte la violence, elle raconte tout ça. Moi, je fais quand même une émission de divertissement.
Ouais, mais le divertissement n'est pas moins important que l'information. On a besoin des deux.
Alors quand même, s'il fallait classer dans l'ordre des priorités, oui. Je ne dis pas que c'est pas, par exemple, en pleine pandémie, je pense que d'avoir diffusé Koh-Lanta, okay. Je pense que ça a apporté beaucoup en termes d'évasion aux gens. Néanmoins, l'information est quand même ce qui est de plus important. Donc, je n'ai pas cette notion-là, et puis je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. Donc ça, je pourrais éventuellement en avoir conscience, parce qu'il y a un moment, je dis toujours à mes patrons quand les gens cherchent à me débaucher, je dis toujours que je vais aux entretiens à mes patrons parce que comme ça me remet un petit coup, ça me fait dire quelle est la valeur que j'ai sur le marché.
Bien sûr.
Mais c'est pas ça ne m'intéresse pas beaucoup. Sur l'égalité homme-femme, c'est pas parce que comme je vous le disais, c'est une vision très personnelle et subjective de la manière dont moi je l'ai vécu que je ne suis pas consciente que ça existe. La seule chose, c'est que je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée chez LP, il y avait 30% de femmes, 70% d'hommes. Et ben maintenant, j'ai inversé la tendance et je suis dans un problème inverse. C'est qu'il faut que je rétablisse un peu d'hommes dans le cadre de mes équipes permanentes.
Donc vous êtes militante sans le savoir.
Ben, disons que j'adore travailler avec les femmes, moi.
Ouais.
Mais je me pose pas la question de... Je le fais, c'est aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de compétences. Elles sont courageuses, elles sont fonceuses. Elle travaille beaucoup et moi j'aime bien travailler avec les femmes. Là j'ai repris Miss France avec Sylvie Tellier et ben j'adore travailler avec Sylvie Tellier quoi. Les trucs se disent, j'aime bien quoi. J'aime bien ça.
Alexia, je dois vous dire un truc. Quand j'ai vu Alexia Laroche-Joubert présidente de Miss France, mais rien que quand j'ai lu la phrase, je trouve ça mais tellement extraordinaire, parce que j'ai eu la chance de gérer quand j'étais chez TF1 licence la marque Miss France, mais ça vous va tellement bien, mais tellement bien.
Ah bah je vous remercie, parce que c'est une partie de ma personnalité que les gens ont du mal à comprendre, mais il y a une ligne de conduite dans tous mes choix de programme qui pourrait être résumée avec l'anonyme et l'ascenseur social. C'est-à-dire que moi, j'aime donner aux gens la possibilité de rentrer dans le téléviseur et d'en faire quelque chose.
Mais je suis certain que vous allez envoyer Miss France dans une autre dimension. J'en suis certain. Non, mais vraiment.
Je ne sais pas, parce que regardez, j'ai travaillé sur la saison précédente. Moi, je ne suis jamais pour les grandes révolutions. Je suis pour les. Je suis plus impressionniste que peinture contemporaine.
Enfin bon, on verra bien en tout cas. Mais j'avais plein de questions à vous poser sur Miss France, mais c'est pas du tout le sujet de cette interview. L'avant-dernière question, Alexia, on va rentrer dans le côté un petit peu psychologique, mais en version courte, parce qu'on arrive vers la fin, parce que je vous ai promis de vous tenir juste une demi-heure. J'aurais adoré parler avec vous pendant 3 heures, mais c'est une demi-heure. Imaginez, vous revenez un petit peu en arrière, et quel conseil donneriez-vous à la Alexia du début des années 90? Imaginez, vous avez ce pouvoir de vous retrouver, vous remonter dans le temps, et vous voyez au début des années 90, quel conseil donneriez-vous?
Quel conseil? Oh là là, j'aurais dû réfléchir à cette question avant, donc si j'étais la Alexia des années 90.
Ouais.
Sincèrement, je regrette rien de ce que j'ai fait. Peut-être que quelquefois, s'il y a peut-être un truc, c'est que j'ai un tempérament de TGV, et que probablement j'ai laissé quelquefois des gens sur le bas-côté ou sur le quai, alors que j'aurais dû ralentir un peu le train pour les faire monter. Je pense que la maturité m'a appris ça, mais que mon entrain un peu chien fou m'a fait faire probablement des erreurs de management.
D'accord. Hyper intéressant. Donc, prendre un peu plus son temps. Alors, ma chère Alexia, nous arrivons à la dernière question. Traditionnellement, alors, je ne sais pas si l'information vous a été donnée, mais je demande à mon invité quel est son mantra ou sa citation préférée et pourquoi. Alors, est-ce que vous avez un mantra ou une citation préférée?
J'en ai plusieurs, mais il y en a une qui est vraiment que je dis même à tous, c'est tout ce qui est pris n'est plus à prendre.
Ah. Et pourquoi?
Et pourquoi? Parce que ça revient aussi à kiffer, c'est-à-dire qu'il faut s'emparer des choses. Et il ne faut pas avoir peur de s'en emparer. Souvent, et ça pour le coup c'est vrai, dans la série de « Les femmes sont des bonnes élèves », on se pose toujours la question de la légitimité. qui est moins le cas des garçons. Les garçons prennent et puis après se posent cette question-là. Et donc je dis, moi je pense qu'il faut prendre et puis après on se met dans le costume et on avance. Donc il y a celle-ci et j'en ai. Mais après j'en ai d'autres pour le business. J'en ai pas mal pour le business.
D'accord. Bah écoutez, c'est formidable. J'adore. Comment vous dire, Alexia, on arrive à la fin de cet entretien. Moi, j'ai passé un moment juste formidable. Mais de toute façon, à chaque fois que je vous croise ou que je vous parle, je passe un bon moment. Je pense que vous êtes un vrai exemple. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Vous voyez, si je fais le parallèle avec Mercedes Serra, je pense que vous êtes de cette catégorie de femmes qui sont des modèles. Vous êtes quelqu'un d'influent. Peut-être que vous pourriez être un peu plus influente dans votre conscience comme Mercedes, mais ça... On en reparlera peut-être un jour. En tout cas, Alexia...
Mercedes est plus âgée que moi. Mais et bon... donc, elle est encore un petit... elle est moins dans l'opérationnel que je le suis.
Mais
encore.
C'est pour ça, ma chère Alexia, que vous avez encore plein de chemin devant vous. En tout cas, Alexia, j'ai pas de mots pour vous remercier de m'avoir accordé cette demi-heure.
Non, mais c'était un plaisir. Et puis, moi, j'adore. Hein, je pars voir mes enfants pleines de bonnes choses. C'est sympa.
Eh ben c'est génial. En tout cas, je sais que les gens qui écoutent Happy Work, qui sont de plus en plus nombreux, ben, vont apprécier ce moment. En tout cas, je vous remercie un million de fois, ma chère Alexia.
Merci,
vous souhaite
Gaëlle.
Plein de bonnes choses, plein de bonnes choses, que du bon et peut-être à très bientôt.
Ben, à très bientôt, Gaëlle. Au revoir.
Salut, Alexia.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.